Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Après les Lumières, la science est en ébullition. Parmi les plus brillants mathématiciens de l'époque, l'un d'eux se distingue par son excellence, mais aussi par son sexe. Il s'appelle Antoine-Auguste Leblanc. Derrière ce pseudo masculin, qu'il aide à intégrer un milieu qu'il aurait rejeté, se cache en réalité la première mathématicienne moderne. Je vous raconte maintenant Sophie Germain. 72. C'est le nombre de savants qui ont l'honneur de voir leur nom inscrit sur le premier étage de la Tour Eiffel. En lettres capitales dorées, s'il vous plaît. Hautes de 60 cm, on peut les lire depuis le sol. Physiciens, mécaniciens, astronomes, chimistes ou médecins, Gustave Eiffel a représenté toutes les spécialités qui ont contribué à la réalisation de sa tour. C'est un véritable panthéon scientifique. La discipline la plus représentée, ce sont les mathématiques, avec pas moins de 17 noms. Au milieu de tous ces noms d'hommes, et uniquement des hommes, celui d'Antoine-Auguste Leblanc est manquant. Pourtant, sans ses travaux sur l'élasticité des surfaces, la tour n'aurait peut-être jamais vu le jour. Alors, comment expliquer cet oubli? Eh bien, tout simplement parce que l'homme est une femme. Leblanc est le pseudo emprunté par la brillante Sophie Germain. Le monde dans lequel la petite Marie-Sophie Germain voit le jour le 1er avril 1776 à Paris est en plein changement. En politique, c'est le temps des révolutions. L'Amérique vient de proclamer son indépendance, tandis que l'ancien régime en France s'apprête à tirer sa révérence. En science aussi, c'est la révolution. Les savants se fondent sur l'expérimentation. Les intellectuels sont en pleine ébullition. Le philosophe Diderot a publié son encyclopédie avec l'aide d'un mathématicien, un certain D'Alembert. Le seul domaine qui reste intact, c'est celui des mœurs, avec la place de la femme, épouse et mère, mais rien d'autre. Pour Ambroise François Germain, négociant en tissu, la place de sa fille est bien à la maison. À la maison, il y a une super bibliothèque qui permet justement à la petite Sophie de s'instruire. À l'âge de 13 ans, Sophie est bouleversée par la lecture d'un ouvrage sur la vie et la mort d'un grand scientifique grec originaire de Sicile, Archimède. Trois siècles avant notre ère, Syracuse est envahie par les Romains, alors qu'Archimède, pour résoudre un problème de géométrie, trace des cercles sur le sable. Il voit l'ombre d'un soldat romain qui s'approche de lui. « Ne dérange pas mes cercles », lui aurait-il dit. Vexé, le soldat se serait empressé de le tuer. Une science qui est telle qu'on puisse mourir pour elle, ça vaut vraiment le coup de l'étudier. Jour et nuit, c'est ce que fait alors Sophie Germain, oubliant même de dormir ou de s'alimenter. C'est l'apprentissage qui la nourrit. Elle apprend le latin pour dévorer des ouvrages scientifiques et étudie minutieusement la géométrie. Elle réalise alors que les livres ne suffisent pas. Ils lui enseignent les mathématiques du passé, mais elle veut s'intéresser au présent. Et pour cela, il lui faudrait intégrer une école toute neuve, créée en 1794, Polytechnique. Autant rêver. L'école est interdite aux femmes. Et elle le sera jusqu'en 1972, dans la foulée de 68. Mais pas question de baisser les bras. Sophie Germain va ruser pour étudier. Elle usurpe l'identité d'un étudiant qui n'assiste pas aux cours. Il s'appelle Antoine-Auguste Leblanc. Et elle va ainsi se procurer les notes d'enseignement. À Polytechnique, les cours sont participatifs. Les élèves sont invités à échanger avec les professeurs, à résoudre des problèmes. Les observations sont souvent mises par écrit. Pratique pour dissimuler son identité. Sophie Germain, sous son pseudo, correspond avec les plus grands mathématiciens de son temps. Le célèbre Joseph-Louis Lagrange est fasciné par ses démonstrations sur le théorème de Fermat. Intrigué par le génie de son élève, il souhaite le rencontrer en personne. Une rencontre a bien lieu. Lagrange découvre que Leblanc est une femme. Contre toute attente, il n'est pas déçu, bien au contraire, et lui témoigne toute son admiration. Quand elle écrit à Carl Friedrich Gauss, peut-être le plus grand mathématicien de son époque, c'est à nouveau sous pseudo. Ils échangent un paquet de lettres, mais la supercherie ne dure pas plus longtemps. En 1806, Napoléon envahit la Prusse et Brunswick, la ville natale de Gauss. Sophie Germain repense à Archimède. Craignant pour la vie de son prestigieux correspondant, elle fait jouer ses relations pour lui sauver la vie. Un général explique à Gauss ce que Leblanc, plutôt Sophie Germain, a fait pour lui. Le mathématicien est stupéfait. Il écrit en avril 1807. Comment vous décrire mon admiration et mon étonnement de voir mon estimé correspondant M. Leblanc se transformer en ce fameux personnage qui me donne un brillant exemple de ce que j'aurais du mal à croire. Mais quand une personne du sexe qui, du fait de nos coutumes et préjugés, doit surmonter plus de difficultés que les hommes pour se familiariser avec ces épineuses questions, réussit néanmoins à dépasser ces obstacles, alors elle doit sans aucun doute posséder un noble courage, des talents extraordinaires et un esprit supérieur. En 1808, le physicien allemand Ernst Chladni vient à Paris. Il présente ses démonstrations à Napoléon qui, s'il n'avait pas été général, aurait été scientifique selon ses propres dires. Une des expériences consiste à dessiner des formes géométriques avec de la musique. Chladni rend les sons visibles, s'écrit l'empereur charmé. Dans la foulée, il lance un concours avec l'Académie des sciences. Après deux échecs, Sophie Germain redouble de détermination et de travail. Elle finit par l'emporter en 1816 grâce à ses travaux sur l'élasticité des surfaces. Le problème, c'est qu'elle a écrit ses trois mémoires sous son vrai nom. Résultat, le jour de la remise du prix, le 8 janvier 1816, la récipiendaire n'est pas invitée. Les seules femmes conviées aux cérémonies officielles sont les épouses des membres. Comme si cela ne suffisait pas, ses travaux sont largement ignorés et ses mémoires ne sont même pas publiées. Son vieil ami Gauss, qui enseigne à l'université de Göttingen, propose de lui accorder un doctorat honorifique. Mais hélas, Sophie Germain meurt avant d'un cancer du sein, à Paris, en 1831. Et même après sa mort, son effacement de l'histoire des sciences continue. Sur son certificat de décès, il n'est pas écrit que Sophie Germain est mathématicienne, mais rentière. Pourtant, elle était bel et bien et de surcroît l'une des meilleures mathématiciennes de son époque. Dans les réserves du Musée de l'Homme à Paris, un moulage de son crâne est conservé. Au premier coup d'œil, on remarque sa forme très allongée. Voilà qui irait dans le sens des phrénologues, persuadés que le crâne d'un être humain reflète son caractère. Eh bien, pas du tout. Sophie Germain a simplement été victime d'une pratique qui visait à faire porter des serre-têtes aux nourrissons pour modeler leur tête. Rien à voir donc avec la bosse des maths qu'elle avait assurément, même si certains ont eu du mal à la voir.
Europe 1, historiquement vôtre.